Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 33e de notre 9e saison. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Malquier. Bonjour.
Bonjour Jean-Claude.
Alors Frédéric Malquier, on vous reçoit essentiellement, je dis bien essentiellement, mais pas exclusivement, à titre de président de la FNAIM 66, c'est-à-dire la Fédération Nationale des Agents Immobiliers, c'est bien ça ?
Tout à fait.
66 pour
le
pays catalan. Mais vous êtes d'abord dans le civil et professionnellement, si je puis dire, le patron de d'une grande entreprise qui s'appelle l'Agence du Soleil, les Agences du Soleil. Expliquez-nous aussi succinctement et clairement que possible, Frédéric Malquier.
Jean-Claude, on va rester modeste. C'est pas une grande entreprise, c'est une petite entreprise locale qui a été créée par notre grand-père il y a maintenant 50 ans, en 1973. On fête aujourd'hui ses 50 ans, on en est très très fiers. Troisième génération qui aujourd'hui nous mène avec mon frère Bertrand à diriger cette société qui est un réseau d'agences immobilières spécialisées notamment dans le syndic de copropriété, la gestion locative et la transaction sur trois départements, les Pyrénées-Orientales, dont j'ai la chance d'assumer une fonction de président de la FNAIM, le département de l'Aude, notre département de cœur, bien évidemment, puisque je suis narbonnais, et le département de l'Hérault, qui est notre plus grand département sur lequel on continue de développer tout cela.
Oui, alors justement, si vous êtes président de la FNAIM 66, c'est parce que, entre autres, vous couvrez les Pyrénées-Orientales.
Tout à fait, c'est ça. Un Narbonnais, pour la première fois, a été élu président de la FNAIM 66 en territoire catalan. Il nous appelle les Gabatch, mais moi je me suis régalé d'être élu comme président de la FNAIM 66.
Oui, voilà, c'est un événement, presque un événement, un Gabatch élu chez les Catalans.
Et je vous confirme, ce n'était jamais arrivé en 70 ans d'existence de ce syndicat.
Ah oui.
C'est la première fois qu'ils sont allés chercher la compétence au Nord, dans le Grand Nord pour eux, c'était difficile.
Ah voilà, c'est ça.
Mais je l'assume.
La raison. Alors, professionnellement, donc, vous avez expliqué, Frédéric Malquier, ce que vous faites. Un premier mot, d'abord, sur cette profession, donc, agent immobilier. Bon, comme dans certaines autres professions, il y a des difficultés pour certains à défendre une déontologie, parce qu'il y a des gens qui font autre chose. Comment la profession, aujourd'hui, est-elle articulée, est-elle défendue ?
Il faut savoir tout d'abord qu'on a une profession séculaire et qui, depuis le 2 janvier 1970, a été organisée par le gouvernement, par l'État, par la loi Auguet. Cette loi Auguet nous dit très clairement que n'importe qui ne peut pas devenir agent immobilier. Et depuis quelques années, on a constaté qu'il y a eu l'arrivée de nouveaux modèles économiques, des modèles disruptifs, des modèles qui ont créé des asymétries de concurrence. Pourquoi ? Parce que ces modèles, par exemple de mandataires, sont des modèles qui ne reposent pas sur les mêmes bases que nous, et essayent un petit peu des fois de contourner les dispositions légales et réglementaires pour pouvoir aller chercher des parts de marché. Mais j'invite la clientèle à être le plus prudent possible parce que ce genre d'organisation qui se veut moderne et 2.0, contrairement à d'autres agences immobilières qui pourraient être plus classiques, n'ont pas toutes les garanties, n'ont pas toutes les habilitations et peuvent être un petit danger pour la clientèle. Alors que les agences immobilières qui dépendent de la loi Auguet, porteurs de cartes professionnelles et qui, à partir de là, ont véritablement pignon sur rue, proposent toutes les garanties à leur clientèle de réussite pour un mandat immobilier, de réussite pour la gestion d'une copropriété ou la gestion d'un appartement.
Oui, parce que la notion de garantie, quand on achète un bien comme une maison, c'est fondamental, ça.
C'est fondamental. Il y a des règles en la matière qui dépendent du Code civil, les articles 1790 et suivants qui prévoient les dispositions des garanties décennales, garanties dommages ouvrages et compagnie. Et donc l'agent immobilier qui va être un agent immobilier rédacteur d'actes, ce que ne le sont pas d'autres modèles qui se sont lancés dans l'immobilier et qui pensaient révolutionner cette chose-là, ne propose pas la rédaction du compromis, la surveillance de tous les diagnostics, et ne pas oublier que l'agent immobilier va mener l'affaire. Je parle là en termes de transactions et de ventes, du début jusqu'à la quasi-fin. Le seul moment qui va nous échapper, c'est quand l'acte final va partir chez le notaire pour permettre d'authentifier la vente, d'avoir un acte notarié officiel.
Et alors, je crois que vous avez demandé et obtenu une sorte de logo, un caducé, qui visuellement fait le distinguo.
C'est ça. À l'instar des notaires, hein, des avocats, des huissiers de justice et des professions réglementées, nous avons voulu mener un double combat auprès du gouvernement il y a quelques années, et ce gouvernement nous a entendus, heureusement. Ce combat mené sur l'instauration d'un caducée qui permettrait de nous reconnaître vis-à-vis de la clientèle et d'être un signe distinctif par rapport à d'autres modèles économiques qui, pour moi, ne sont pas les bons. Donc ça, c'était la première chose. Donc, quand vous rentrez dans une agence immobilière, faites attention à ce qu'il y ait bien le caducée, qui est la déesse romaine du foyer, qui s'appelle Vesta. Et cette Vesta, elle porte une flamme. Et cette flamme, elle est là pour éclairer la vision d'un copropriétaire, d'un acheteur, d'un vendeur, d'un locataire, d'un bailleur, toute notre clientèle immobilière, pour la mener jusqu'à la fin de son acte immobilier. Et après, le deuxième point, c'est nous avons mené un combat également pour avoir une charte d'éthique et après un renforcement des conditions d'accès à la profession. Et sur ce, nous avons obtenu cet élément-là qui permet aujourd'hui de dire que l'agent immobilier, syndic de copropriété, administrateur de biens, c'est un métier réglementé, à l'instar des autres professions que j'ai indiquées tout à l'heure.
Et alors donc, vous avez, on l'a dit tout à l'heure, vous couvrez par les agences du Soleil les trois départements, grosso modo la grande partie de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Comment ça se structure là? Vous avez une maison mère, j'imagine, et toutes les agences sont chapeautées en quelque sorte par cette maison mère.
Tout à fait, c'est ça. Donc,
pour avoir une uniformité ou une harmonie.
Exactement. Nous avons notre société mère principale, qui après derrière a des filiales permettant d'être au plus près de nos copropriétaires, de nos clients, toutes nos parties d'activité immobilière que nous puissions exercer. Et ça nous permet d'être au cœur et à proximité d'un maillage géographique qu'on a voulu très fort sur le territoire.
Oui. Alors, Frédéric Malquier, bon, l'immobilier, ça existe partout, notamment partout en France, mais nous sommes quand même dans une région qui est un peu particulière, puisque, rappelons un tout petit point d'histoire, il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'années, il y avait eu un immense chantier sur le littoral, qu'on appelait la mission Racine, qui a construit des centaines, des milliers de logements, alors d'un type particulier, destinés aux loisirs. Mais ça a dû quand même changer la donne, ça.
Ça a changé la donne et je suis bien placé pour le savoir. Je suis un peu jeune pour parler du plan Racine. Je ne l'ai pas vécu directement. Mais par contre, j'ai mon grand-père qui était qui avait une activité de promoteur immobilier. Et en ayant cette activité de promoteur immobilier, a pu rencontrer le général de Gaulle qui avait mandaté Monsieur Racine dans le cadre de ce plan Racine.
Qui est venu, je crois, à Le 4.
Et qui était venu à Le 4, à Port-la-Nouvelle, et qui a permis de développer nos anciennes friches qui étaient réservées et nos marais salants qui étaient réservés aux moustiques. Qui n'était pas tigre à l'époque, qui était méditerranéen et européen. Et aujourd'hui, nous bénéficions encore de ce plan Racine, puisque nous avons un volume très important de biens en Roussillon. Hein. Il y a quasiment 400 000 biens qui sont aujourd'hui actifs sur le département des Pyrénées-Orientales par rapport aux 3 600 000 biens de la région Occitanie. Donc on a 10%, 11% grosso modo du portefeuille de l'Occitanie. Et tout cela, on le doit en grande partie sur des communes comme Saint-Cyprien, Port-le-Cat, Port-Bacarès, La Grande-Motte, etc., le général de Gaulle qui a voulu éviter l'exode massif de nos locataires estivaux vers l'Espagne,
oui, jusqu'à la Costa Brava.
Il fallait les capter au passage. Et quoi de mieux que de construire en masse des logements.
Oui, voilà. Donc aujourd'hui, alors c'était quand même une 50, 60 ans. Que reste-t-il? Parce que c'était une autre époque et c'était peut-être un type d'habitat qui était cadré pour un type de loisir. Or, certaines choses ont changé.
Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous, Jean-Claude. Nous avons eu cet héritage et cet héritage, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne correspond plus aux critères de demande de nos propriétaires ou de nos locataires, qu'ils soient à l'année ou estivaux. Aujourd'hui, les gens veulent, et encore plus depuis le Covid, on le voit, une montée en termes de superficie habitable et de superficie de terrasse ou d'extérieur. Ils veulent des extérieurs profitables, des extérieurs qui permettent d'aménager une piscine, d'avoir un jardin. même si on va le tempérer en ce moment avec la sécheresse, mais ils veulent quand même ces parties-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des logements qui sont plus tout à fait à ces normes-là, et on voit très souvent, par exemple, des fusions de T1 ou de T2, quand les propriétaires peuvent en acheter plusieurs, pour pouvoir avoir des surfaces plus grandes. Aujourd'hui, ces studio-cabines ou les T2 mezzanines que nous avions du temps de l'époque Racine, aujourd'hui, sont devenues obsolètes et méritent d'être rénovées ou des fois d'être démolies pour être reconstruites. Il y a vraiment un changement des mentalités et un changement d'envie des clients immobiliers.
Oui, mais là, ça implique aussi un immense chantier, presque aussi grand que ce qu'il était il y a 50 ans, s'il faut refaire de fond en comble.
Ah, ça peut être un chantier très contraignant, surtout que là, en plus, en copropriété, on est vraiment visé par ces dispositifs de réactualisation et d'aller chercher les économies d'énergie là où c'est possible, éviter les passoires thermiques, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. On a des difficultés par rapport à ces logements qu'on ne peut plus indexer en termes de loyer, qu'on ne pourra plus à terme louer, c'est ce qu'il faut que la clientèle sache. Et donc, du coup, pour permettre de rénover ce parc, l'État a fait une très bonne chose, a mis en place des plans pluriannuels de travaux. Et ces plans pluriannuels de travaux permettent aux copropriétaires de faire voter sur les 10 prochaines années un plan prévisionnel des travaux qui vont toucher les parties communes. Toiture, isolation, façade, tous ces éléments-là qui vont permettre de gagner en étiquette énergétique et qui vont permettre, avec également l'appui d'aides nombreuses versées par l'ANA, par le département, par la région, permettre, avec MaPrimeRénov, etc., de pouvoir redynamiser ces bâtiments qui étaient vieux, mal isolés, et qui, pour 80% d'entre eux, ne font pas l'objet de DPE. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas chauffés. Ils n'ont pas d'instrument de chauffage ou de climatisation à l'intérieur.
On n'avait jamais imaginé qu'on viendrait en hiver dans ce genre d'appartement.
On n'avait jamais imaginé que, par exemple, on a une énorme clientèle toulousaine. Les Toulousains, si d'ailleurs ils nous écoutent, je les salue bien vivement, parce que c'est partie d'une clientèle très importante pour nous. J'imagine. Dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'Aude, ils adorent venir chez nous, à partir de Gruissan, Le Cat, et après là, tout ce qui va au sud de ces destinations-là, Saint-Cyprien, Argelès, Canet, parce que quand ils vont avoir accès à un T2 en région toulousaine, chez nous ils auront un T4 ou un T5. La différence de prix au mètre carré fait que ils peuvent monter en gamme et monter en superficie à prix ISO, à prix équivalent.
Oui, mais d'après ce que vous dites, donc Frédéric Malquier, là, dans cette rénovation, c'est d'autant plus complexe qu'il y a des parties communes et des parties privatives.
Tout à fait.
C'est d'ailleurs qui sont différentes.
Qui sont tout à fait différentes. Et c'est d'ailleurs ce que les gens, j'assiste à de nombreuses assemblées générales avec mes gestionnaires, et je peux en témoigner, puisque beaucoup de gens ont du mal à faire le distinguo, malgré le fait qu'ils soient copropriétaires depuis des années, entre une partie commune et une partie privative. La partie privative est bien évidemment l'appartement, sur lequel moi je n'ai pas d'interaction possible. C'est le copropriétaire qui va pouvoir réaliser ses travaux, et s'il avait un DPE en E ou en F, essayer de diminuer cette note en isolant bien ses fenêtres, en changeant de climatisation parce qu'elle n'était pas aux normes, etc. Et après, nous, on va également avoir une étiquette énergétique par rapport à un DPE collectif ou dans le cadre d'un audit énergétique. Et cette notation des parties communes impacte à terme la réalisation justement d'un plan pluriannuel de travaux. Donc c'est important que les copropriétaires prennent conscience à la fois de leur enjeu concernant leur partie privative, leur appartement et également la copropriété. Il faut traiter les deux au même moment.
Oui, voilà, d'où la difficulté. On marque, on va y réfléchir pendant ce temps-là, une première pause. On se retrouve tout de suite après, Frédéric Malquier.